Chapitre 20. Ce qui se passa jusqu'au petit jour, je n'en sais rien. Les bagages, les blessés et les prisonniers continuèrent, sans doute, de défiler sur le pont. Mais alors, une détonation épouvantable nous éveilla. Pas un homme ne resta couché, car on prenait cela pour une attaque, lorsque deux officiers de hussards arrivèrent en criant qu'un fourgon de poudre venait de sauter par hasard dans la grande avenue de Ranstadt, au bord de l'eau. La fumée, d'un rouge sombre, tourbillonnait encore dans le ciel en se dissipant. La terre et les vieilles maisons frémissaient. Le calme se rétablit. Quelques-uns se recouchèrent pour tâcher de se rendormir. Mais le jour venait. En jetant les yeux sur la rivière grisâtre, on voyait déjà nos troupes s'étendre à perte de vue sur les 5 ponts de l'Elster et de la Plesse qui se suivent à la file et n'en font pour ainsi dire qu'un. Ce pont, sur lequel tant de milliers d'hommes devaient défiler, vous rendait tout mélancolique. Cela devait prendre beaucoup de temps, et l'idée venait à tout le monde qu'il aurait mieux valu jeter plusieurs ponts sur les deux rivières, puisque d'un instant à l'autre, l'ennemi pouvait nous attaquer, et qu'alors la retraite deviendrait bien difficile. Mais l'empereur avait oublié de donner des ordres, et l'on n'osait rien faire sans ordre. Pas un maréchal de France n'aurait osé prendre sur lui de dire que deux ponts valaient mieux qu'un seul. Voilà pourtant à quoi la discipline terrible de Napoléon avait réduit tous ses vieux capitaines. Ils obéissaient comme des machines et ne s'inquiétaient de rien d'autre, dans la crainte de déplaire au maître. Moi, tout de suite, en voyant ce pont qui n'en finissait plus, je pensais « Pourvu qu'on nous laisse défiler maintenant, car Dieu merci, nous avons assez de batailles et de carnages. Une fois de l'autre côté, nous serons sur la bonne route de France. Je pourrai revoir peut-être encore Catherine, la tante Grédel et le père Goulden. » En songeant à cela, je m'attendrissais. Je regardais d'un œil d'envie ces milliers d'artilleurs à cheval et de soldats de train qui s'éloignaient là-bas, comme des fourmis, et les grands bonnets à poils de la vieille garde immobile de l'autre côté de la rivière, sur la colline de Lindernau, l'arme au bras. Zébédé, qui pensait la même chose, me dit « Hein, Joseph ! Si nous étions à leur place. » Aussi, vers 7 heures, lorsque nous vîmes s'approcher 3 fourgons pour nous distribuer des cartouches et du pain, cela me parut bien amer. Il était clair maintenant que nous serions à l'arrière-garde, et malgré la faim, j'aurais voulu jeter mon pain contre un mur. Quelques instants après, passèrent 2 escadrons de lanciers polonais qui remontaient la rivière. Puis, derrière ces lanciers, 5 ou 6 généraux, et dans le nombre, Poniatowski. C'était un homme de 50 ans, assez grand, mince et l'air triste. Il passa sans nous regarder. Le général Fournier se détacha de son état-major en nous criant « Par file à gauche !» Je n'ai jamais eu de crève-cœur pareil. J'aurais donné ma vie pour de liards. Mais il fallait bien emboîter le pas et tourner le dos au pont. Au bout des promenades, nous arrivâmes à un endroit appelé Hintertor. C'est une vieille porte sur la route de Konowitz. À droite et à gauche s'étendent les anciens remparts, et derrière s'élèvent les maisons. On nous posta dans les chemins couverts, près de cette porte, que des sapeurs avaient solidement barricadée. Le capitaine Vidal commandait alors le bataillon, réduit à 325 hommes. Quelques vieilles palissades vermoulues nous servaient de retranchement, et sur toutes les routes, en face, s'avançait l'ennemi. Cette fois, c'étaient des vestes blanches, et des sacs au plat sur la nuque, avec une espèce de haute plaque devant où se voyait l'aigle à 2 têtes des Kreuzers. Le vieux Pinto, qui les reconnut tout de suite, nous dit « Ceux-là sont des Kaiserlicks. Nous les avons battus plus de 50 fois depuis 1793. Mais c'est égal, si le père de Marie-Louise avait un peu de cœur, il serait avec nous tout de même. » Depuis quelques instants, on entendait la canonnade de l'autre côté de la ville. Blücher attaquait le faubourg de Hall. Bientôt après, le feu s'étendit à droite. Bernadotte attaquait le faubourg de Kolgartentor, et presque en même temps, les premiers obus des Autrichiens tombèrent dans nos chemins couverts. Ils se suivaient à la file. Plusieurs passant au-dessus de Hintertor éclataient dans les maisons et dans les rues du faubourg. À 9 heures, les Autrichiens se formèrent en colonne d'attaque sur la route de Konowitz. De tous les côtés, il débordait. Malgré cela, le bataillon tint jusque vers 10 heures. Alors il fallut nous replier, derrière les vieux remparts où les Kaiserlicks nous poursuivirent par les brèches sous le feu croisé du 29e et du 14e de ligne. Ces pauvres diables n'avaient pas la fureur des Prussiens. Ils montrèrent pourtant un vrai courage, car à 10h30, ils couronnaient les remparts, et nous, de toutes les fenêtres environnantes, nous les fusillions sans pouvoir les forcer à redescendre. 6 mois avant, ces choses m'auraient fait horreur, mais j'en avais vu tant d'autres. J'étais alors insensible, comme un vieux soldat. Et la mort d'un homme ou de sang ne me paraissait plus rien. Jusqu'à ce moment, tout avait bien marché. Mais comment sortir des maisons? L'ennemi couvrait toutes les avenues, et,
à moins de grimper sur les toits,
il n'y avait plus de retraite possible. C'est encore un des mauvais moments dont j'ai gardé le souvenir. Tout à coup, l'idée me vint que nous serions pris là, comme des renards,
qu'on enfume dans leurs trous.
Je m'approchai d'une fenêtre de derrière, et je vis qu'elle donnait dans une cour, et que cette cour n'avait de porte que sur le devant. Je me figurais que les Autrichiens, après tout le mal que nous venions de leur faire, nous passeraient au fil de la baïonnette. C'était assez naturel. En songeant à cela, je rentrai dans la chambre où nous étions une dizaine, et j'aperçus le sergent Pinto, assis, tout pâle contre le mur, les bras pendants. Il venait de recevoir une balle dans le ventre, et disait au milieu de la fusillade « Défendez-vous, conscrits, défendez-vous! Montrez à ces Kaiserlicks que nous valons encore mieux qu'eux! Ah, les brigands !» En bas, contre la porte, retentissaient comme des coups de canon. Nous tirions toujours, mais sans espoir, lorsqu'il se fit dehors un grand bruit de piétinement de chevaux. Le feu cessa, et nous vîmes, à travers la fumée, 4 escadrons de lanciers, passés comme une bande de lions au milieu des Autrichiens. Tout cédait. Les Kaiserlicks allongeaient les jambes, mais les grandes lances bleuâtres, avec leurs flammes rouges, filaient plus vite qu'eux et leur entraient dans le dos comme des flèches. Ces lanciers étaient des Polonais, les plus terribles soldats que j'ai vus de ma vie, et pour dire les choses comme elles sont, nos amis et nos frères. Ceux-là n'ont pas tourné casaque au moment du danger. Ils nous ont donné jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait pour leur malheureux pays? Quand je pense à notre ingratitude, cela me crève le cœur. Enfin, cette fois encore, les Polonais nous dégageaient. En les voyant si fiers et si braves, nous sortîmes de partout, courant sur les Autrichiens à la baïonnette, et nous les rejetâmes dans les fossés. Nous eûmes la victoire, mais il était temps de battre en retraite, car l'ennemi remplissait déjà Leipzig, les portes de Hall et de Grima étaient forcées, et celles de Peterstor, livrées par nos amis les Badois et nos autres amis les Saxons. Soldats, étudiants et bourgeois tiraient sur nous des fenêtres. Nous n'eûmes que le temps de nous renformer et de prendre le chemin de la grande avenue qui longe la place. Les lanciers nous attendaient là. Nous défilâmes derrière eux, et comme les Autrichiens nous serraient de près, ils firent encore une charge pour les refouler. Quels braves gens, et quels magnifiques cavaliers que ces Polonais! Ah, tous ceux qui les ont vus pousser une charge sont dans l'admiration, surtout dans un moment pareil. La division, réduite de 8 000 hommes à 1 500, se retirait donc devant plus de 50 000 ennemis, non sans se retourner et répondre encore au feu des Kaiserlicks. Nous nous rapprochions du pont, avec quelle joie, je n'ai pas besoin de le dire, mais il n'était pas facile d'y arriver, car sur toute la longueur de l'avenue, tant d'hommes à pied et à cheval se précipitaient pour passer, arrivant de toutes les rues environnantes, que cette foule ne formait en quelque sorte qu'un seul bloc, où toutes les têtes se touchaient et s'avançaient lentement, avec des soupirs et des espèces de cris sourds qu'on entendait d'un quart de lieue malgré la fusillade. Malheur à ceux qui se trouvaient sur le bord du pont. Ils tombaient, et personne n'y faisait attention. Au milieu, les hommes et même les chevaux étaient portés. Ils n'avaient pas besoin de bouger, ils avançaient tout seuls. Mais comment arriver là? L'ennemi faisait des progrès à chaque seconde. On avait bien placé quelques canons sur les deux côtés pour balayer les promenades et en face la rue principale. Il y avait bien encore des troupes en ligne pour repousser les premières attaques. Mais les Prussiens, les Autrichiens et les Russes avaient aussi des canons pour balayer le pont. Et ceux qui resteraient les derniers, après avoir protégé la retraite des autres, devaient recevoir tous les obus,
tous les boulets et la mitraille.
Il ne fallait pas beaucoup de bon sens pour comprendre cela. C'était assez clair. Voilà pourquoi tout le monde voulait passer à la fois. À 200 ou 300 pas de ce pont, l'idée me vint de courir me perdre dans la foule et de me faire porter de l'autre côté. Mais le capitaine Vidal, le lieutenant Bretonville et d'autres vieux disaient « Le premier qui s'écarte des rangs, qu'on tire dessus !» Quelle terrible malédiction d'être si près de penser « Il faut que je reste !» Cela se passait entre 11h et midi. Je vivrais 100 ans, qu'il me serait impossible de rien oublier de ces moments. La fusillade se rapprochait à droite et à gauche. Quelques boulets commençaient à ronfler dans l'air. Et du côté du faubourg de Hall, on voyait les Prussiens déboucher pêle-mêle avec nos soldats. Aux environs du pont, des cris épouvantables s'élevaient. Les cavaliers, pour se faire place, sabraient des fantassins, qui leur répondaient à coups de baïonnette. C'était un sauve-qui-peut général. À chaque pas de la foule, quelqu'un tombait du pont, et, cherchant à se retenir, on entraînait 5 ou 6 par grappe. Et comme la confusion, les hurlements, la fusillade, le clapotement de ceux qui tombaient augmentaient de seconde en seconde, comme ce spectacle devenait tellement abominable qu'on aurait cru qu'il ne pouvait rien arriver de pire, voilà qu'une espèce de coup de tonnerre part, et que la première arche du pont s'écroule avec tous ceux qui se trouvaient dessus. Des centaines de malheureux disparaissent, des masses d'autres sont estropiées, écrasées, mises en lambeaux par les pierres qui tombent. Un sapeur du génie venait de faire sauter le pont. À cette vue, le cri de trahison retentit jusqu'au bout des promenades. « Nous sommes perdus, trahis !» On n'entendait que cela. C'était une clameur immense, épouvantable. Les uns, saisis de la rage, du désespoir, retournent à l'ennemi comme des bêtes fauves acculées, qui ne voient plus rien et qui n'ont plus que l'idée de la vengeance. D'autres brisent leurs armes en accusant le ciel et la terre de leur malheur. Les officiers à cheval, les généraux, sautent dans la rivière pour traverser à la nage. Bien des soldats font comme eux. Ils se précipitent sans prendre le temps d'ôter leur sac. L'idée qu'on avait pu s'en aller et que maintenant, à la dernière minute, il fallait se faire massacrer, vous rendait fou. J'avais vu bien des cadavres, la veille, entraînés par l'aparta. Mais alors, c'était encore plus terrible. Tous ces malheureux se débattaient avec des cris déchirants. Ils s'accrochaient les uns aux autres. La rivière en était pleine. On ne voyait que des bras et des têtes grouillées à la surface. En ce moment, le capitaine Vidal, un homme calme et qui par sa figure et son coup d'œil nous avait retenus dans le devoir, en ce moment, le capitaine lui-même parut découragé. Il remit son sabre dans le fourreau en riant d'un air étrange et dit « Allons, c'est fini ». Et comme je lui posais la main sur le bras, il me regarda avec une grande douceur. « Que veux-tu, mon enfant ?» me demanda-t-il. « Capitaine, lui dis-je, car cette pensée me revenait alors. J'ai passé 4 mois à l'hôpital de Leipzig, et je me suis baigné dans l'Elster. Et je connais un endroit où l'on a pied. »« Où cela ?»« À 10 minutes, au-dessus du pont. » Aussitôt, il tira son sabre en criant d'une voix de tonnerre. « Enfant, suivez-moi ! Et toi, marche devant !» Tout le bataillon, qui ne comptait plus que 200 hommes, se mit en marche. Une centaine d'autres, qui nous voyaient partir d'un pas ferme, se mirent avec nous sans savoir où nous allions. Les Autrichiens étaient déjà sur la terrasse de l'avenue. Plus bas s'étendaient des jardins séparés par des haies jusqu'à l'Elster. Je reconnus ce chemin que Zimmer et moi nous avions parcouru en juillet, quand tout cela n'était qu'un bouquet de fleurs. Des coups de fusil partaient sur nous, mais nous n'y répondions plus. J'entrai le premier dans la rivière. Capitaine Vidal ensuite, puis les autres, 2 à 2. L'eau nous arrivait jusqu'aux épaules, parce qu'elle était grossie par les pluies d'automne. Malgré cela, nous passâmes. Heureusement, il n'y eut personne de noyé. Nous avions encore presque tous nos fusils en arrivant sur l'autre rive, et nous prîmes tout droit à travers champs. Plus loin, nous trouvâmes le petit pont de bois qui mène à Schleißig, et de là, nous tournâmes vers Lindenau. Nous étions tous silencieux. De temps en temps, nous regardions au loin, de l'autre côté de l'Elster, la bataille qui continuait dans les rues de Leipzig. Longtemps, les clameurs furieuses et le rebondissement sourd de la canonnade nous arrivèrent. Ce n'est que vers 2 heures, lorsque nous découvrîmes l'immense file de troupes, de canons et de bagages qui s'étendaient à perte de vue sur la route d'Erfurt, que ces bruits se confondirent pour nous avec le roulement des voitures.